I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors Karim, ton record de temps pour corder une raquette?
8 minutes 04.
Mais est-ce que tu as en mémoire l'attention de Medvedev et de quelques stars?
Ouais, Medvedev cette semaine, il a porté 5 raquettes hier pour son match et c'était 3 raquettes à 22-22.
Ouais.
Et 2 raquettes à 21-21. Wawrinka, on est en train de faire là, pour lancer son match tout à l'heure, on est à 28 en montant, 26 en travers. Urquaz, 23-23. On n'est plus dans les 35-36 comme avant.
Alors la prise en charge, on note bien sûr le nom du joueur, le modèle de raquette, la quantité de raquettes déposées. Est-ce qu'on doit apposer un logo ou pas? Le cordage aussi, montant en travers, la tension pour chaque, montant en travers, le nombre de nœuds, et puis le pick-up time, c'est à l'heure à laquelle il souhaite la récupérer. J'ai oublié de noter tout à l'heure la petite indication, la demande du coach de Hubert Urquaz, qui me demandait donc de prendre soin de ses raquettes pour Hubert demain, et surtout de les corder le matin même. Il préfère avoir des raquettes faites peu de temps avant le match pour avoir la meilleure tension possible pendant son match. On a aussi l'inverse. Là, par exemple, la raquette de Sébastien de Corda, où voilà, on peut les corder ce soir. J'ai là aussi Rinderknecht, qui a déposé donc ses raquettes tout à l'heure. Et lui, il préfère que ça drop. Donc le drop en tension, c'est une perte de tension pendant la nuit. Et il préfère après les jouer un peu plus soft le matin quand il les récupère.
Combien de raquettes vous cordez en moyenne dans une journée?
Sur les bonnes journées, on est à 60 par jour.
Donc est-ce que pour un joueur de club, une tension de 2 kg, enfin une différence de 2 kg dans une tension, ça va beaucoup jouer?
Ça peut, mais il faut faire un test, on va dire un vrai test comparatif, c'est-à-dire que le joueur doit se corder 2 raquettes le même jour, enfin à la suite, les deux cordées, et il va les tester tout de suite. Et là, il va se rendre compte s'il y a une différence ou pas. Pour un joueur de club comme moi...
T'es à combien?
En tension?
Non, en poids.
93.
Ah ouais, tu t'en fort.
Bien planté. Ouais.
Mais est-ce que par ton métier, tu vas sentir une énorme différence si tu tends à 23 ou à 25
par exemple ? Oui, parce que je suis habitué à faire des tests aussi. J'anime aussi des tests raquettes et cordage. Donc oui,
Mais pour le commun des mortels, pas forcément.
Il faut qu'il le fasse, il faut qu'il fasse 2 raquettes en même temps. C'est-à-dire une par exemple à 23 et l'autre à 21. Et là, il va sentir la différence.
D'accord.
Mais si tu fais une raquette le lundi à 23 et une autre le mercredi à 21 et que tu me dis je vais tester, ça sert à rien, on n'y va pas. Il faut que tu fasses un test comparatif. Là, dans la même heure, tu me testes ces 2 raquettes et tu auras ta réponse à la fin de ton heure.
Une raquette avec laquelle tu as fait 4-5 matchs, qui va forcément se détendre, quel est l'impact sur le jeu?
Longueur de balle, beaucoup d'élasticité sur le tamis, perte de contrôle aussi. Si t'es fit et t'es bien posé au niveau de tes jambes, là, la perte de contrôle, elle est importante. Voilà, après, des gens qui sont un peu moins affûtés physiquement, la corde va compenser plutôt le manque de physique.
C'est-à-dire, pour avoir plus de longueur ou plus de puissance, tu recommandes quoi comme tension?
J'ai toujours été adepte des tensions hyper modérées, moi. Parce que de toute façon,
d'accord,
plus on tend, plus c'est dur, et plus ça fait mal au bras, et plus tendinite, et ainsi de suite, et plus arrête du tennis rapide.
Donc toi, c'est
donc,
école
moi, c'est tension, moi, c'est école plutôt à 18, 19 et 20.
Ah bon?
Ah ouais.
Ah, c'est vachement bas.
Ouais, mais l'arrivée des polyesters sur le marché a fait qu'on n'a pas réglé les tensions tout de suite.
Et pourquoi par défaut, on nous apprend à jouer avec une tension à 25?
Je sais rien, je sais pas d'où ça sort, c'est un truc...
Okay.
En plus, c'est franco-français, ce truc.
Ouais. Parce qu'à l'étranger, pas du tout?
Bah non, à l'étranger, j'ai plein de joueurs qui sont espagnols, italiens, il n'y en a pas un qui demande une tension pareille. Et culturellement, peut-être que les surfaces aussi de jeu, terre, dehors, les variations de température, d'humidité, peut-être qu'on éduquait les gens plus rapidement. En France, voilà, on s'est dit on met tout le monde à 25, tout le monde dit 25 et puis on suit 25, mais on n'est pas tous. On est tous différents quoi.
Sur le circuit, c'était quoi ta demande la plus folle?
Alors je vais commencer par le plus haut, c'était Mark Woodforde, un joueur de double australien.
Ouais.
Il m'a demandé 42 kilos. Alors je lui ai dit je peux pas. La machine va à 40, maxi.
Il recherchait quoi avec une tension hors norme?
Ça peut être que du contrôle à 2000%. Hein. La raquette, elle faisait pas loin de 400 grammes aussi déjà.
Ouais.
Donc une massue, quoi, un truc injouable.
Et juste les diamètres de cordage vont de combien à combien?
1,20, 1,25, 1,30.
Et tu confirmes que forcément plus la jauge est grosse, moins tu vas casser?
Oui.
Autre demande un peu Loufoque.
Filippo Volandri à l'époque à 10,5. On a refait Pico. Adrian Manarino cette semaine à 10,5.
Mais ta main, ça bouge presque
ou... C'est hyper facile à accorder, hein. C'est très souple. Là, pour le passage des travers, on est sur un matelas. Hein.
Et ça permet quoi d'être tendu si bas?
C'est énormément d'élasticité aussi. La raquette, à l'époque, était plus lourde, hein, donc tu as de la masse et tu as beaucoup d'élasticité. Donc, encore une fois, tu vas aller chercher juste du relâchement à l'impact.
Okay.
Tu ne vas pas forcer. T'as juste à te mettre, à être bien posé au niveau des jambes,
allez,
bien bouger, être précis. On a cette précision, parce que physiquement, ils s'entraînent quand même tous les jours. Donc voilà, c'est un confort absolu à l'impact et c'est quelque chose qui encourage beaucoup les gens à essayer aussi.
À
descendre en tension pour essayer, parce que descendre en tension, c'est pas péjoratif. Parce que nous, cordeurs, on s'en fout, quoi. La machine, elle va de 5 à 40 kilos, donc on met un chiffre.
Ouais.
Mais par contre, on est à l'affût de si ça correspond vraiment à notre client final. Mais du coup, il y a énormément de gens, je pense, dans le tennis qui devraient être entre 16 et 20 kilos et qui sont à 23, 24 parce qu'on a dit un jour, faut se mettre à 25 et donc on a moyennisé les choses.
La pause est à combien sur le Moselle Open?
Sur le Moselle Open, on est sur 20 euros. Bon, là, on est sur le niveau professionnel dans nos magasins. Pour l'ancienne pour laquelle je travaille, on est entre 10 et 12 euros en fonction des magasins.
Et pourquoi est-ce que, à ton avis, le cordage est un milieu si opaque? Donc, tu vois, là, on a posé la question sur Tennis Légende, on a eu 200 questions. Pourquoi les gens s'y connaissent si peu et sont si réticents à, comme tu le disais juste avant, faire des tests?
Le monde du cordage professionnel est quand même très élitiste et n'est pas, on va dire, palpable, hein, localement, partout. C'est le haut niveau, c'est un peu chasse gardée sur les petits secrets. On divulgue pas forcément tout.
Oh pétard, il va falloir que tu nous donnes des secrets après.
Peut-être qu'on doit être plus force de proposition dans les conseils encore. Aller plus loin, aller le chercher en sensation, aller le conseiller. C'est mon point de vue, je le vois comme ça, je le fais comme ça. Et voilà, après, quelque part, j'ai juste envie de dire, faites confiance à votre cordeur si vous sentez qu'il a de la matière aussi à vous donner, du contenu technique, et qu'il peut vous accompagner dans le progrès, ou même pas le progrès, mais juste déjà éviter de vous blesser, quoi.
Peut-être aller le chercher aussi, lui dire voilà mon style de jeu.
Exactement,
qu'est-ce que t'en penses.
Forcément, et aller le chercher pour voir si techniquement il est capable de répondre à votre demande.
Et en arrivant là sur le stand, vous aviez la musique et tout, vous étiez un peu dans votre bulle. Quand tu cordes, est-ce que tu es dans une espèce de transe ou de méditation à moitié?
On reste des humains et l'erreur, le passer deux fois, trois fois, peu importe le nombre de fois au-dessus ou en dessous, faire une erreur sur une raquette, ça arrive à tout le monde. On n'est pas des robots, surtout en fin de semaine, on travaille 15 heures par jour, la fatigue arrive. Ce qui nous importe, nous, c'est cette régularité dans la précision du geste, et peu importe l'état de fatigue, peu importe l'heure.
Ouais.
Qu'il soit 8h30 du matin ou 22h45 pour le dernier express de la journée, c'est pas grave ça. Le niveau de concentration, il va rester le même sur la raquette.
Est-ce que tu peux juste nous dire ce qu'est un express du coup?
Un express, c'est quand le joueur est en match et qu'il nous envoie une raquette ou deux pour refaire recorder, parce qu'il a besoin de faire recorder sa raquette. Soit il a cassé, soit il sent une perte de tension, soit il sent que ça part au troisième et il a envie d'avoir une raquette fraîche, fraîche en tension, faite immédiatement. Et donc là, on met à disposition la machine et en moins de 15 minutes, notre engagement est de renvoyer la raquette sur le court.
Les joueurs les plus connus que tu as eu qui t'ont demandé un express, c'est lesquels?
J'ai eu la chance de corder pour Rafa plusieurs fois sur des tournois comme Monte Carlo, Roland. Les express arrivent de moins en moins parce que les joueurs préparent de plus en plus de raquettes aussi.
Ouais.
Et donc au lieu de partir avec 3 cadres, maintenant ils partent avec une série de 5.
Voilà, Stan nous en a déposé 5.
5 avec 2 5 à la même tension, mais Daniel c'était 5 avec 2 tensions différentes. Il commence et puis voilà, s'il se sent bien, il va continuer avec cette tension-là. Et au moins s'il sent pas bien, moins bien, dans le sac, il a 2 raquettes moins tendues. Et au moins avec les 3 autres, il peut nous renvoyer des express au cas où si le match dure.
Est-ce que tu as déjà des joueurs qui t'ont encensé de compliments ou d'autres qui t'ont défoncé parce que le travail était mal fait?
On apprécie beaucoup les valeurs humaines des joueurs ou des coachs parce que c'est quand même plus plaisant de travailler pour des gens qui sont organisés, avenants, polis, courtois et qui respectent ce travail.
On veut des noms?
Non.
Merci.
Non, mais
je sais que
des noms,
le polonais,
des vrais noms,
des noms,
enfin le coach, le clan Urca, c'est juste des gens incroyablement gentils.
Parce qu'il y en a qui t'a mis sur la gueule?
Non, j'ai eu des accros avec certains joueurs parce que voilà, arrive un moment, faut pas dépasser les bornes du respect. Et puis
c'était quoi les trucs où...
Non, c'était un manque d'organisation du joueur.
Voilà,
c'était sur une journée, j'étais sur un tournoi, j'ai fait presque 40 raquettes cette journée-là et j'avais des grosses séries et on était fous et à un moment voilà, il y a beaucoup de tension qui arrive sur le stand parce que voilà, ça joue de partout et à un moment bah voilà, le joueur il arrive et il te met la raquette comme ça sur le desk, donc sur le bureau d'accueil.
Ouais.
Dans 15 minutes, je joue deuxième rotation. Désolé mec, mais ça va pas se passer comme ça, quoi. Déjà, on va se dire bonjour.
Ouais.
Donc après, c'est parti un peu plus loin dans les mots, parce qu'on lui a dit non, parce qu'on lui a dit qu'il n'était pas organisé, parce qu'il va le superviseur de l'ATP. Il est parti voir les trucs, il était avec son père. Je dis, bah écoutez les gars, maintenant, vous prenez votre raquette et puis vous allez voir ailleurs, quoi.
Wow. Ah ouais.
Parce qu'à un moment, bah, nous, on peut.
Ouais.
Mais voilà, je t'encourage un jour à faire plus de 40 raquettes sur une journée.
Ouais.
Voir un peu avec la fatigue consécutive des jours. Et puis voilà, c'était pas. Il a pas bien amené la chose du tout. Quoi.
Ouais. Et t'as de la corne de mutant sur les doigts ou pas?
Ouais, j'ai un peu de reste hein, quand même. Hein. Ça fait plus de 25 ans que je corde et ouais, les polyesters ont un peu entamé ma corne et ma peau. Quoi.
Il y a ce truc de ne surtout pas toucher le grip.
Ouais, ouais, clairement.
C'est quoi cette règle non, et comment tu fais? En fait, c'est un réflexe avec le temps, j'imagine.
Non, mais je veux dire, de plus en plus, là, on a des surgrips qui sont blancs.
Ouais.
Donc nous on travaille, on tracte des cordes, on tire de la corde qui parfois traîne par terre, ça prend de la poussière. Enfin, on n'a pas les mains, on n'a pas plein de graisse, hein, mais on n'a pas les mains toujours propres à 100%. Du coup moi sur le stand et tout ce qu'on fait globalement, c'est interdit de toucher les surgrips des joueurs pour éviter de salir déjà. Et puis de toute façon, moi perso même ma raquette, si je te la donne, tu la prends pas par le surgrip. Quoi.
Ah ouais. Touche pas ça, t'es avec tes mains.
Non mais voilà, j'ai des coachs qui. Le coach de Runeux me rapporte les raquettes, donc il grippe les raquettes avant, donc il grippe sur grip 9,
ouais.
Et il met du cellophane au-dessus, comme ça il est sûr. Donc, moi je lui ai dit, on enroule aussi le manche, si les joueurs le souhaitent, on enroule avec un plastique, comme
d'accord.
Ça on ne touche pas. Mais lui il le fait d'office, quoi, c'est mécanique. Il y a pas mal de joueurs qui. Voilà, parce que quand ils prennent le grip 9, ils veulent le reprendre comme ils l'ont posé, sans tâche, sans rien. C'est dans leur petite routine quoi, de préparation du matériel.
Et vous mettez plus le plastique comme Agassi quand il demandait tout le temps au ramasseur de tirer le plastique.
On est passé dans une ère
d'éco-responsabilité.
Ouais. Voilà, donc depuis nous, déjà 2 ans, on fournit plus de plastique sur les raquettes. Même pour au niveau des prises en charge, on travaille sur des cartons avec des crayons gris, on gomme, on revient un peu à l'ancienne, mais au moins nos cartes, on les réutilise tous les ans. Enfin voilà, on limite énormément tous les déchets sur le stand.
Ouais.
Et ouais, on est dans un mode éco-responsable aussi. On s'aligne avec tout ce qui est un petit peu impulsé dans l'écosystème du tennis.
Est-ce qu'il y a encore des joueurs qui jouent en boyau, avec du boyau?
Oui, bah au cas, hein, là.
Et je crois que c'est ça le plus cher, le boyau, non?
Ouais.
C'est combien une garniture de boyau?
Autour de 40 euros maintenant. La valeur ajoutée du boyau, c'est quand même c'est la tenue de tension.
D'accord.
C'est la corde qui a le meilleur maintien de tension au monde.
Ok.
C'est fait avec des intestins de bœuf, de vache, et voilà, cette composition naturelle, plus après, dans sa production, les éléments sont intégrés à la corde. Et ben voilà, aujourd'hui, en termes de tenue de tension, il n'y a pas mieux.
Si, en allant chercher du détail, donc la tension qui me correspondrait parfaitement, avec le cordage qui me correspondrait parfaitement, tu penses que c'est quoi la marge de progression pour un joueur de club au moment où tu tapes juste?
Dans le tennis, il y a le haut et le bas. Tu peux te faire le meilleur réglage possible sur ta raquette. Tant que toi, tu n'as pas fait le boulot en bas, au niveau des jambes, on ne sera pas en adéquation.
Admettons que j'ai un très bon jeu de jambes et que je fais l'effort sur le bas du corps.
Si tout est posé en bas, franchement, il y a matière à aller chercher easy 2, 3 ou 4 classements en fonction de ce que tu fais par an au volume de match.
C'est énorme.
C'est énorme, mais bien sûr que c'est énorme. On voit le détail ici, mais le détail après, nous, on peut le retranscrire à tous nos clients tous les jours en magasin et les aider, les accompagner dans cette progression.
Attends, ça veut dire que là, je suis à 4-6, j'ai pris 3 classements parce que j'avais pas joué depuis longtemps. Ça veut dire que si je reste comme ça, je peux galérer à 0 et si j'ai le matos parfait, tout de suite, j'ai 30% de chance, admettons, de plus de gagner.
Tu peux remonter vite parce que déjà, tu seras en confiance avec ton matos. Déjà, mais encore une fois, en bas, il faut que ce soit bien posé.
Okay.
Nous, on ne fait pas de miracle. Hein. En bas, le physique, c'est le joueur. Hein.
Ouais, ça va dire que c'est la base.
La partie physique,
une fois que la base est là.
Une fois que la base est là, ouais, on peut t'accompagner pour continuer à progresser derrière, bien sûr.
Et c'est énorme quand tu dis entre 2 et 4 classements. Quoi.
Après, voilà, il faut être béton dans la tête, il faut avoir envie.
Ouais.
Et nous, on va te fournir ce dont tu as besoin sur chaque impact de balle. Donc ton niveau de confiance aussi dans tes coups, il va te permettre de passer des caps que tu n'avais peut-être pas parce que tu étais en mode un peu je me retiens quoi.
Mmh. Donc, incroyable.
Mais c'est un package global après.
S'il y a Edgar Tengo sur le cordage, vous êtes bon. Est-ce qu'il y a une spécificité sur le savoir-faire Artengo, le stand, l'expérience?
Je suis avec des cordeurs grand chelem, José Wimbledon, 11 fois, vous aviez Roland avec moi pendant plein d'années aussi, Melbourne. Florent, notre cordeur local qui est là depuis 9 ans sur l'Open, depuis le temps qu'on l'a signé, on est sur les standards Grand Chelem. Donc
okay.
On est sur une qualité de poste Grand Chelem et on ne veut pas descendre en termes de niveau. tout simplement pour offrir le meilleur aux joueurs. Après voilà, faut être prêt aussi, encore je te le disais, à faire 15 heures par jour sur les plus grosses journées. On est sur un collectif béton et ça aide le groupe, quoi.
J'ai entendu dire qu'il y avait des cordeurs particuliers pour un joueur. Je crois que Roger, à un moment, il y avait un cordeur. Ouais. Et t'as quoi? T'as 3-4 joueurs dans le top 100 max qui font appel à ça?
Non, ils sont beaucoup plus.
Ah bon?
Ouais, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus.
Parce que quoi, ils font pas confiance au stand
Non, c'est parce que... c'est pas. Peut-être pour eux, c'est une question de confiance. Mais principalement, c'est pour avoir toujours la même personne qui s'occupe de tes cadres.
D'accord.
Et aussi avoir une certaine flexibilité. J'en connais pas mal qui sont dans ces sociétés-là. S'accordent la nuit, beaucoup, ou très très tôt le matin, à partir de 3h du matin, pour que la raquette soit le plus fraîche et être déposée à 9-10h sur le site du tournoi, ou en fonction de la programmation du match un peu plus tard. Mais il y a cette disponibilité aussi. C'est dans des hôtels, des apparts, pas loin des sites des tournois. Et surtout, il y a, j'ai mon cordeur avec moi. Mmh. Il fait partie du team quelque part, comme le physio ou comme mon coach. Du coup, voilà, tout est verrouillé autour et au moins, il y a l'aspect matériel en moins dans la tête du joueur sur le terrain.
Et si je vais te donner 2-3 styles de jeu, est-ce que tu peux me sortir une tension idéale? Serveur-volleyeur, tu y conseillerais de tendre à combien?
J'ai un peu de mal avec ces questions, mais
ah ouais.
c'est en fonction du joueur. Tu peux être serveur-volleyeur, avoir besoin de 40 kilos.
Avoir un bras énorme ou être comme
ouais,
ça.
Et encore, est-ce que c'est parce que tu as un bras énorme que tu aimes bien avoir une planche à l'impact? Ça ne veut rien dire pour moi.
Okay.
Qu'est-ce que tu veux sur ta raquette? Qu'est-ce que tu veux ressentir quand la balle rentre en contact avec ta corde?
Donc peu importe le style de jeu, après j'allais dire raton de fond de court, tu peux pas me sortir non, comme ça une tension.
Regarde Mana à 10,5 cette semaine et tu vois comment il joue. Mais c'est pour ça qu'il y a eu ces histoires de moyenne.
Ouais.
Quelque part, comme on ne sait pas trop, non, mais il faut aller personnaliser la relation avec le joueur ou la joueuse et dire voilà, aujourd'hui, et surtout, il faut provoquer des tests, faire tester différentes tensions sur la même raquette, le même cordage. Et comme ça, c'est le joueur qui va aussi sentir ce dont il a besoin. Aujourd'hui, toi, Rafa, en moyenne, c'est 25,5. Tu as vu ce qu'il envoie?
Ouais.
Et il n'est qu'à 25.
Ok.
Alors qu'on connaît plein de gens autour de nous qui en voient beaucoup moins et qui sont à 25. Donc,
Est-ce qu'il y a une tendance quand même où moins tu vas tendre, plus tu vas gagner en longueur de balle et...
Ça, c'est du physique, ça, c'est clair.
Ah, d'accord.
Moins tu tends, plus la balle repart vite.
Okay.
Plus tu tends, moins la balle va sortir vite de la raquette.
D'accord.
Il faut que l'ensemble aussi, le couple cadre-cordage, soit cohérent.
Yes.
Tu joues léger, il ne faut pas trop tendre. Ça ne sert à rien d'avoir un truc tout léger, maniable et très dur à l'impact. C'est un non-sens technique. Et aussi, ça dépend de ta corde. Si tu mets un multifilament en boyau, ça sert de trop le tendre. Tu vas pourrir ta corde à la pose.
Est-ce que le cordage se recycle?
On est en train d'essayer. Cette semaine, on va récupérer tous les cordages polyester. En interne, chez nous, on est en train de lancer un projet de récupération de tous les cordages polyester. Donc, c'est en cours.
Cool.
Alors, je ne te dirais pas oui à fond, mais en tout cas, on est sur le projet. Et puis, j'espère que d'autres suivront si on arrive à avoir la solution technique pour le recyclage. On vous dira bientôt ce qu'on arrive à faire après avec les fibres recyclées.
Est-ce qu'il y a un joueur ici au Moselle Open qui fait plus cordé que les autres ou sur un tournoi en règle générale? Une machine?
Vavrinka.
Un malade mental.
Vavrinka est pas mal. Hein. On est à 5-6 raquettes par match. Ça va poser, entre 20-25 raquettes maxi par joueur là sur le dernier carré. Ouais, sur le dernier carré.
Ah,
mais ouais. Après, il y a la partie qu'on voit à la télé, qui c'est les matchs, mais tout le reste de la journée, il y a aussi beaucoup d'entraînement.
Les gars voyagent avec combien de raquettes? Combien de cadres?
Les plus gros, ils ont voyagé avec 12. Mais sinon, là, on est sur une moyenne entre 6 et 8 cadres.
Et ils les changent tous les combien, tu sais?
Ça dépend de comment
ça se passe
sur
le genou,
cadre ou pas. Ça dépend s'il a cassé, il a pété un plomb sur le cours.
Ouais.
Voilà, c'est 3 à 4 fois le lot de raquettes par an, en moyenne.
Ouais. Okay. Dernière question, combien gagne un cordeur sur un tournoi?
En moyenne, un cordeur va être aux alentours de 150 euros par jour.
D'accord. C'est combien une machine électrique, les premiers prix?
Ouais, on est à 2500, 3000 euros. Hein.
Voilà. Et une machine manuelle, on est à combien?
300, 350 euros, tu trouves. Hein.
Et est-ce que ça fait le taf quand même ou pas?
Oui, ça,
ou est-ce que c'est très
ça le fait parce que de toute façon, t'as pas le choix. Quand tu te positionnes à 350, tu prends ton produit, ça fait le taf. L'idée, c'est que ça fasse le taf tout le temps de la même façon.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir après des petits outils qui permettent de calibrer les choses. Donc que tu sois en machine manuelle et que tu fasses tes raquettes sur ton tournoi, eh ben limite je te dirais vaut mieux que tu gardes ta machine plutôt que tu passes sur une électrique parce qu'il va y avoir un tel changement en termes de tension que ça va peut-être te perturber et tu vas avoir quelque chose qui ne te correspond plus parce que tu étais habitué à ta machine. Donc du coup, il faut passer progressivement si après tu veux faire évoluer ta machine et ta tension.
Et t'as quel âge là ?
46 ans.
Donc ça fait 27 ans de circuit ?
Oui.
Oh, le mec est là. Merci Karim.
Merci à toi.